l'heure, 22h sur Europe 1. C'est le moment du journal, Isabelle Millet.
Nous avons mis au point un test dans un temps record qui permet en France, en réalité, de diagnostiquer très rapidement dans la journée tous les malades potentiels.
La ministre de la Santé rassurante sur l'épidémie de coronavirus. L'OMS aussi, l'organisation estime qu'il est trop tôt pour déclarer une urgence internationale. En Chine, une vingtaine de millions d'habitants sont confinés. La grève, ça repart. Baroud d'honneur demain, peut-être. En tout cas, jour de présentation en Conseil des ministres du projet de réforme des retraites. Les commémorations à Jérusalem du 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz. Tous unis face à l'antisémitisme. Est-ce une forme d'aveu? En tout cas, Michel Fourniret demande à être considéré comme coupable dans l'affaire Estelle Mouzin. Ségolène Royal, partante pour un nouveau combat, elle qui sera demain officiellement démise de ses fonctions d'ambassadrice d'épaule. Il peut être fier de son fils. Le père du biathlonien Fabien Claude fait partie, semble-t-il, du groupe des 5 Français disparus dans un accident de motoneige au Québec. Le jeune homme l'a annoncé lui-même alors qu'il montait cet après-midi sur la 3e marche du podium.
Je suis content de lui rendre hommage de cette façon. Voilà, aujourd'hui, ce podium, il est pour lui et je suis sûr qu'il est fier de nous et en tout cas, je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui.
L'hommage d'un fils à son père. Et puis on verra que les tennismen français ne sont pas du tout en forme à Melbourne. Il n'en reste plus qu'un, Gaël Monfils. Le département de l'Aude en vigilance orange ce soir, tout comme les Pyrénées-Orientales, tous les deux pour risque d'inondation et de crue. Le passage de la tempête Gloria et ses pluies diluviennes n'ont finalement pas fait de dégâts majeurs ni de blessés. L'île de la Réunion est-elle placée en alerte cyclonique orange à partir de ce soir? Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Jean-Marc Chéry, le président du directoire de ST Microélectronique, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs. Autour de cette question, est-ce qu'on peut encore produire des technologies en France?
Europe 1.
Il est trop tôt pour déclarer une urgence internationale. C'est ce que dit ce soir l'Organisation mondiale de la santé à propos de l'épidémie de coronavirus venue de Chine. Il n'y a aucune preuve de transmission entre humains en dehors de ce pays. Tandis que la ministre française de la Santé se veut, elle aussi, rassurante. Le gouvernement annonce avoir mis au point un test permettant un diagnostic rapide.
Nous sommes d'ores et déjà d'abord en mesure d'avoir un diagnostic très rapide. Le Centre national de référence des coronavirus à l'Institut Pasteur et d'ici demain un centre à Lyon seront en mesure de faire un test diagnostique rapide en quelques heures. Et d'ici la semaine prochaine, la majorité des hôpitaux, des grands hôpitaux français, sera en mesure d'effectuer le test. Il a fallu mettre au point un test spécifique puisqu'il s'agit d'un nouveau virus. Nous avons mis au point un test dans un temps record qui permet en France, en réalité, de diagnostiquer très rapidement dans la journée tous les malades potentiels.
Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, cet après-midi au micro Europe 1 de Jean-Jacques Herry. En Chine, 18 personnes ont déjà succombé. Et pour la première fois aujourd'hui, les autorités chinoises ont annoncé un décès en dehors du berceau de l'épidémie, dans la province de Hubei, c'est près de Pékin. Des mesures drastiques ont en tout cas été prises à Wuhan et à Wundong, soit près de 18 millions d'habitants placés en quarantaine. Et toutes les festivités du Nouvel An ont été annulées. La cité interdite a même été fermée. Écoutez le reportage sur place du correspondant d'Europe 1, Sébastien Lebelzik.
Voilà le genre de musique que l'on n'entendra pas cette année dans les parcs de Pékin. La danse du dragon, les marchés traditionnels, les feux d'artifice, tout cela est annulé en raison de l'épidémie qui continue de se propager en Chine. Une mauvaise nouvelle pour cette famille pékinoise.
On n'a pas le choix, on doit rester à la maison. De toute façon, ce n'est pas très raisonnable de sortir en ce moment.
Est-ce que du coup, vous avez peur de sortir?
C'est pas vraiment de la peur, mais il faut être sérieux pour soi-même, mais aussi pour les autres.
Alors que la moitié des provinces chinoises sont touchées par l'épidémie, beaucoup de familles vont rester chez elles demain soir pour le Nouvel An. Et c'est à la télévision qu'ils suivront l'entrée dans l'année du rat. Le spectacle diffusé chaque année par la télévision d'État CCTV devrait du coup battre demain soir tous les records d'audience. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et ce soir, l'Organisation mondiale de la santé espère que ces mesures de confinement en Chine seront de courte durée. Et c'est reparti, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain, alors que le texte sera présenté en Conseil des ministres. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, lance un appel à la responsabilité pour éviter des incidents lors de la manifestation qui doit, ferrarissime, s'achever place de la Concorde. Et c'est donc le retour des perturbations dans les transports, Maud Descamps.
Oui, alors ce sera plutôt à la RATP. Hein. 12 lignes de métro très fortement perturbées. Par exemple, sur la ligne 13, il n'y aura qu'un train sur 4. À la SNCF, en revanche, le trafic sera normal pour les TGV, Ouigo, Thalys et Eurostar. Et il y aura 7 TER sur 10 en circulation. Alors, il y aura quand même certains secteurs fortement perturbés, notamment dans les crèches. Certaines seront fermées, d'autres en horaires réduits. Même chose dans les cantines, notamment chez les personnels Sodexo. Les enseignants devraient également suivre le mouvement. Le SNES-FSU, un premier syndicat chez les enseignants, s'attend à une grosse mobilisation. Même chose dans le secteur de l'énergie, avec des blocages dans toutes les centrales EDF. D'autres coupures sauvages d'électricité sont également à attendre, a prévenu la CGT. Et il y aura aussi une nouvelle opération port mort organisée par la CGT des ports et des docks.
Les prévisions de Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Par ailleurs, Édouard Philippe indique à nos confrères du journal La Croix que la conférence de financement qui doit réunir les partenaires sociaux sera lancée le 30 janvier, c'est-à-dire jeudi prochain. Elle doit permettre cette conférence de trouver les moyens de garantir l'équilibre financier du système de retraite d'ici à 2027. Ce soir, à la veille de cette nouvelle journée de mobilisation, des retraites au flambeau ont été organisées un peu partout en France. Notez que Laurent Berger de la CFDT sera demain matin l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal et les commémorations à Jérusalem aujourd'hui du 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz. Temps fort de ces cérémonies, un moment de recueillement au mémorial de Yad Vashem en présence d'une quarantaine de dirigeants, dont Vladimir Poutine, le vice-président américain Mike Pence, le prince Charles et donc Emmanuel Macron, tous unis face à l'antisémitisme. Adrien Beck, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Jérusalem avec un même message, ne pas oublier.
Oui, tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tribune l'ont répété. Le message est unanime. À Yad Vashem, il s'agissait donc de commémorer le passé, la Shoah, mais aussi de faire le lien avec le présent, la lutte contre l'antisémitisme qui remonte en France, a dit Emmanuel Macron.
Nous ne laisserons pas faire, car la promesse de la France est bien une promesse de souvenir et d'action. Zahor al-Tishkar, souviens-toi.
Mais en parallèle, le front uni s'est craquelé avec le message très politique de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui a dénoncé dans son discours les tyrans de Téhéran, l'Iran qui fait selon lui courir le risque d'une autre Shoah. Face à cela, Israël doit rester ferme, a appuyé le vice-président américain Mike Pence, des propos pointés en filigrane par Emmanuel Macron.
Nul n'a le droit de convoquer ces morts pour justifier quelques divisions ou quelques haines contemporaines. Car tous ceux qui sont tombés nous obligent.
Emmanuel Macron qui, dans le même temps, a assuré hier que la France sera intraitable sur le nucléaire iranien, tout en assurant vouloir éviter une escalade militaire dans la région, quelle qu'elle soit.
Adrien Beck à Jérusalem pour Europe 1. Emmanuel Macron qui, par ailleurs, aujourd'hui est revenu sur l'affaire Sarah Halimi. Il y a un mois, la Cour d'appel de Paris a considéré que le suspect du meurtre de cette femme juive était irresponsable pénalement, fermant ainsi la porte à un procès. Le président, lui, a plaidé pour la tenue d'un procès, même si à la fin, dit-il, le juge devait décider que la responsabilité pénale n'est pas là. Le besoin de procès, lui, est là, a-t-il dit. Écoutez la réaction ce soir de Céline Parizeau, la présidente de l'Union syndicale des magistrats.
Il n'appartient clairement pas au président de la République de se prononcer sur une procédure pénale en cours. La chambre de l'instruction, donc c'est-à-dire trois magistrats qui statuent ensemble après une audience, après avoir entendu les parties, les experts, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus loin et de faire un procès dans cette affaire, dès lors que le suspect est pénalement irresponsable. Aujourd'hui, le président se permet finalement de critiquer cette décision, puisqu'il estime qu'il faut un procès. Ce n'est clairement pas son rôle. Le président de la République, dans l'organisation de nos institutions est censée être le garant de l'indépendance de la justice et certainement pas lui donner des directives.
Céline Parizeau, la présidente de l'Union syndicale des magistrats qui réagissait donc à la petite phrase d'Emmanuel Macron cet après-midi à Jérusalem. Elle était avec Alain Accot du service police-justice d'Europe 1. Le parquet national antiterroriste s'est saisi après la découverte d'engins explosifs dans un immeuble d'Épinal dans les Vosges. Un homme a été interpellé, il était fiché S et il était sorti de prison il y a 6 mois. Ségolène Royal ne cache plus ses intentions à la veille du Conseil des ministres qui va la démettre demain de ses fonctions d'ambassadrice des pôles. Elle ne cache plus donc ses intentions. Sur Europe 1, ce soir au micro de Nathalie Lévy, elle laisse entendre entre les lignes qu'elle vise la présidentielle.
Il fallait quand même être imprudent pour lancer une réforme de cette lourdeur, de cette ampleur, qui n'était pas préparée. Vous avez vu l'improvisation, les tâtonnements, les hésitations, tout ça parce qu'il y a un déficit démocratique extrêmement grave. Aujourd'hui, 69% des Français pensent qu'il ne sera pas réélu, et pourtant ils ont voté pour lui.
Il a encore une base à plus de 20%. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ?
On n'a pas voté pour avoir cette dégradation. Ce qui s'est passé, c'est le choc à la fois des gilets jaunes dont les problèmes n'ont pas été résolus, et deuxièmement, lancer une réforme de dégradation de la sécurité sociale dans son volet sur les retraites, on n'a pas voté pour ça.
Ségolène Royal avec Nathalie Lévy dans le Grand Journal du Soir d'Europe 1. L'ancienne femme de Michel Fourniret, Monique Olivier, sera de nouveau entendue demain par la juge d'instruction chargée de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Lors de sa dernière audition, en novembre dernier, elle avait mis à mal l'alibi de son mari dans cette affaire. Et Michel Fourniret lui-même demande désormais à être considéré comme coupable. Alors, est-ce une forme d'aveu ? En tout cas, Guillaume Bier, il a clairement laissé planer le doute lors de son audition en novembre.
Et lors de cet interrogatoire, une dizaine de pages que nous avons pu consulter, le tueur en série livre dès sa première réponse une formule ambiguë dont il a le secret. « Ma mémoire fiche le camp, mais je ne suis pas complètement sûr de n'y être pour rien. » C'est typiquement du Michel Fourniret dans le texte. Même si on sait qu'il est atteint de réels troubles de la mémoire, « elle me fait défaut », dit-il à 77 ans. « Ce n'est pas drôle de vieillir, les neurones, ils foutent le camp », ajoute l'ogre des Ardennes. Loin d'être dupe, la juge Sabine Kéris lui glisse « on a l'impression que vous faites le tri dans vos souvenirs ». Absolument pas, rétorque Fourniret, je joue franc jeu avec vous. Néanmoins, tout au long de cet interrogatoire de première comparution, le tueur en série n'est jamais catégorique. Il multiplie les réponses de Normand, comme il le dit lui-même, possible que oui, possible que non. Il répète face à la photo d'Estelle Mouzin que rien ne fait tilt et que s'il était pour quelque chose dans sa disparition, ça ne lui ferait rien de l'avouer, mais qu'il n'en a pas souvenance. Sa dernière réponse se conclut ainsi, je le cite, « Dans l'impossibilité où je suis de vous dire oui, je suis responsable de sa disparition, je vous exhorte à me considérer comme coupable, à me traiter comme coupable. » En résumé, sans jamais rien avouer, Fourniret se place lui-même en coupable présumé.
Guillaume Bier avec Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Le biathlète français Fabien Claude a annoncé aujourd'hui que son père faisait partie des 5 touristes français qui sont toujours portés disparus dans le nord du Québec après un accident de motoneige. Annonce qu'il a faite alors qu'il venait tout juste de prendre la 3e place de l'épreuve individuelle de la Coupe du Monde de biathlon en Slovénie.
Ben, je suis hyper satisfait de ma course, j'avais tellement de choses dans la tête depuis hier soir et voilà, on a décidé de prendre le départ et avec Florent et je suis content de lui rendre hommage de cette façon. Voilà, il y a eu un tragique accident au Canada pour mon père et voilà, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus plus, mais en tout cas c'est aujourd'hui ce podium il est pour lui et je suis sûr qu'il est fier de nous et en tout cas je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui.
Le biathlète Fabien Claude qui rend donc hommage à son père, il se classe 3e de l'épreuve individuelle de la Coupe du Monde de biathlon, juste derrière Martin Fourcade, épreuve remportée par le Norvégien Boé. Et puis ils étaient 18 au départ, il n'en reste plus qu'un ce soir, un seul Français encore en lice à l'Open d'Australie de tennis, il s'agit de Gaël Monfils. Et Corinne Boulou, ça n'est pas mieux chez les femmes puisqu'elles sont toutes éliminées.
Oui, effectivement. Alors, si le tennis féminin français avait terminé l'année sur une bonne note, pleine de promesses avec cette victoire en finale de Fed Cup, eh bien, il commence l'année sur une fausse note. Pas une Française au 3e tour après l'élimination d'Alizé Cornet ce matin. C'est du jamais vu depuis 1985 et cela devient une mauvaise habitude en grand chelem. Gaël Monfils, désormais unique représentant tricolore à Melbourne, après les éliminations de Pierre Gerber et Gilles Simon, n'est même plus étonné d'avoir à expliquer à notre correspondant Georges Homsy cette faillite tricolore en grand chelem.
J'ai l'impression qu'à chaque grand chelem, j'ai cette question. De leur tomber dessus à chaque fois, c'est dur. Parce qu'on travaille tous, on essaie de faire le maximum. Il y a les jeunes qui arrivent, alors on a envie forcément qu'ils arrivent un peu plus vite. C'est pas facile. Si les résultats, pour l'instant, sont moins à la hauteur, on va dire, de notre grande nation du tennis, je pense que quand même, dans un futur très proche, elle sera de nouveau au top. Quoi.
Gaël Monfils, 33 ans et 10e mondial, affrontera samedi l'étonnant letton Ernest Gulbis. Il faut remonter à 2005 pour voir un seul Français présent au 3e tour.
Merci Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1. Et puis vous savez quoi ? Europe 1 a été récompensé aujourd'hui du Grand Prix de la radio généraliste nationale de l'année. Un prix qui a été remis par un jury de professionnels réunis au Salon de la Radio et de l'Audio Digital qui se tient en ce moment à Paris. Et on est encore plus heureux quand on voit les critères qui ont été retenus pour ce prix. L'innovation, la créativité des programmes, le ton, la personnalité et l'originalité de la présence sur les réseaux sociaux. Un grand merci donc à vous tous qui nous écoutez. On ne lâche rien, on continue à écouter ensemble Le Monde Changé. Et pour l'instant, on jette un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. On rappelle que le département de l'Aude est toujours en vigilance orange, tout comme les Pyrénées-Orientales, tous les deux pour risque d'inondation. Et pour demain, Anissa, enfin une amélioration.
Oui, une toute petite amélioration. En effet, Isabelle, la bonne nouvelle de cette météo, c'est surtout que le temps redevient sec sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Dans le sud-est, le long de la Méditerranée et en Corse, c'est là qu'il pleut demain, avec sur l'Hérault et le Gard des pluies qui seront moins soutenues que ces derniers jours. Quelques petites gouttes qui peuvent également remonter jusqu'en Auvergne en vallée du Rhône. Sur les Alpes, c'est de la neige qui tombe à partir de 1500 mètres demain. À l'ouest, sur les Pays de la Loire et les Charentes, là, les pluies de la matinée vont laisser place à un ciel chargé et bien gris dans l'après-midi. Et puis sur tout le reste du pays, eh bien c'est un temps sec. Du nord au Cotentin en passant par la région parisienne, là le ciel est nuageux, mais le temps reste sec. Et puis sur le quart nord-est, sur l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Val-de-Saône, le Nivernais, eh bien c'est là que la journée sera la plus belle et la plus ensoleillée demain. Les températures, elles sont toujours assez fraîches le matin. Moins 4 à Nancy et Colmar, moins 2 à Orléans et Strasbourg, 0 pour Lille, Paris et Rennes. Jusqu'à 10 degrés demain matin à Bastia. Et au meilleur de la journée, nous aurons 3 à 17 degrés l'après-midi. Donc 6 à Dunkerque et Strasbourg, 6 pour Paris également, hein, c'est pas chaud. 10 à Lyon, 12 à Montpellier et 17 à Ajaccio.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un tout petit instant, vous saurez tout sur la bourse, bien sûr, avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Jean-Marc Chéry, le président du directoire de ST Micro Electronics, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs. Autour de cette question, est-ce qu'on peut encore produire des technologies en France ? A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h17. Merci à vous d'écouter Europe 1. On va retrouver tout de suite Didier Hamot pour la bourse. Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui limite ses pertes en clôture ce soir.
Oui, Wall Street qui limite son retard. Finalement, ça se termine pas mal. Hein. Le Dow Jones, moins 0,09%, quasiment rien, 29 160 points. Et le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, gagne même 0,2% et reste au plus haut, 9 402 points. Le diagnostic, vous en parlez tout à l'heure, le diagnostic rassurant de l'OMS sur le coronavirus a plutôt calmé les craintes des marchés financiers. Ça explique cette remontée en fin de journée, puisque les indices américains perdaient pas mal de terrain en début de séance. Les valeurs de technologie remontent, comme Intel, plus 0,9%. 63,32$. Tesla monte encore de 0,5%. Tesla à 572$. Apple, plus 0,5%. 319$. Microsoft, plus 0,6%. Il y a quelques baisses, pas grand-chose. Amazon, moins 0,1%. IBM, moins 0,7%. Il y a quand même une victime encore, c'est le pétrole qui recule de nouveau à 62$ le baril de Brent, au plus bas depuis 2 mois. Le pétrole toujours en berne et Exxon recule de 0,6%. Le géant pétrolier américain est à 66,77$. L'euro ne bouge pas, il est à 1,1055 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, elle, a aligné une 4e séance de baisse consécutive.
Oui, ça continue. Alors, ce sont des petites baisses, mais des baisses quand même. On est sous les 6000 points désormais, 5971 points, moins 0,65%. Et parmi les secteurs les plus affectés, il y a surtout l'automobile, avec Renault qui chute de 5%, 37€ au plus bas depuis près de 8 ans. Le titre Renault qui a été dégradé par Citigroup. Citigroup, le broker qui s'inquiète de la situation financière de Renault, une situation industriel aussi qui est compliqué face à la transition écologique. Le broker vise un cours de seulement 30€ sur Renault qui termine ce soir à 37€, donc en baisse de 5%. Il y a aussi Faurecia et Valeo qui reculent de 3% du côté des équipementiers automobiles. Et puis l'autre secteur malmené, c'est le luxe qui était beaucoup monté ces derniers mois. On repère 3% sur Kering, 2,5% sur LVMH, sur la crainte d'un ralentissement des flux touristiques dans le monde.
Et puis l'exception du jour, Didier, c'est le titre ST Micro qui termine en nette hausse. Et ça tombe bien puisque le président du directoire est l'invité d'Europe 1 dans quelques secondes maintenant.
Tout à fait, oui. Le titre a flambé. Hein. Plus 6,5%, 27€. La valeur STM est de retour au plus haut depuis 2002. En Bourse de Paris, le groupe a publié des résultats supérieurs aux attentes du marché avec une marge d'exploitation qui a atteint 25,9% au quatrième trimestre. ST Micro Electronics, donc, plus 6,5% ce soir. Sur les autres places financières, ça baisse pas mal sur le DAX à Francfort, moins 0,9%, Bruxelles, moins 0,9% aussi, Madrid, moins 0,6%, Milan résiste, pratiquement stable. On rappelle le CAC 40 en baisse de 0,65%, 5 971 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamot de boursier.com. Et comme promis, c'est l'heure de l'invité éco. Emmanuel Duteil, vous recevez donc ce soir le président du directoire de ST Microelectronics.
Jean-Marc Chéry, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du directoire de ST Microelectronics. C'est l'un des derniers grands noms de l'électronique en France. Vous venez de présenter vos performances pour cette année et ça va plutôt pas trop mal. J'ai envie de commencer par un sujet d'actualité. Vous avez 5000 employés aujourd'hui en Chine. On parle énormément, bien évidemment, de ce coronavirus. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos collaborateurs? Est-ce que vous avez mis des mesures en place pour s'assurer de la santé de vos collaborateurs?
On a des protocoles qui sont bien entraînés, hein, puisqu'on est quand même présent en Asie depuis 50 ans. Donc des pandémies, on en a connu quelques-unes. On prend toujours ça très au sérieux et on est en coordination parfaite avec les autorités locales, hein, chinoises. Et on a le souci de protection de nos employés et on essaiera, autant que faire se peut, d'exposer le moins possible les employés à voyager en Chine dans les prochains jours.
Mais là, quand on voit qu'il y a des zones de confinement dans certaines villes, on voit aujourd'hui que par exemple à Pékin, ils ont annulé toutes les manifestations pour le nouvel an chinois. Est-ce que là, déjà aujourd'hui, vous prenez, vous, dans vos usines chinoises, des mesures très concrètes?
Oui. Sous la coordination des autorités sanitaires locales, comme on l'a fait en 97 avec le SARS. Donc oui, je vous confirme, on fait ça. Et on suit ça de très près.
Alors ST Microelectronics, c'est pas le groupe, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais le plus connu de nos auditeurs. Pourtant, allez, très souvent dans la journée, on vous utilise, que ce soit dans les automobiles, que ce soit dans nos téléphones portables. On va commencer justement par l'automobile. Vous travaillez avec Tesla notamment, hein, le géant américain des voitures électriques. Tesla qui aujourd'hui pèse plus que General Motors et Ford réunis, qui pèse plus que Volkswagen en bourse. Vous vous attendiez à un tel succès de la part de Tesla ?
Oui, parce que je connais bien Elon Musk. Il a une qualité importante qui est la vision. Et effectivement, il a compris très vite que la mobilité intelligente et donc électrifier les voitures pour réduire leur empreinte énergétique, et notamment en Californie à l'époque, c'est quelque chose qui était important de faire. Et il avait des contraintes techniques sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir, hein, puisque ça serait trop long. Mais bon, il a voulu travailler avec nous en avance de phase pour qu'on puisse répondre à des défis technologiques. Mmh. Et c'est ce qu'on a su faire. Et on a contribué à son succès. Et donc, nous, on a des succès aussi parce que lui est dans une dynamique de succès.
Mmh. Pour vous, l'automobile, c'est un nouveau marché de rêve puisqu'il y a de l'électrique et il y a de l'électronique. Finalement, la voiture de demain, c'est quoi? C'est un smartphone géant à l'intérieur de la voiture. Et ça, vous savez faire ça mieux que personne?
Ça ne peut pas être qu'un smartphone. Il faut qu'il y ait de l'émotionnel, de la facilité d'usage, peu d'empreintes, je dirais, environnementales.
Mais plus il y a de l'électrique et plus il y a de l'électronique, plus c'est bon pour rester microélectronique.
Bien sûr. Et surtout pour nous, c'est qu'on a su l'anticiper. Et si vous voulez, ça fait par exemple plus de 10 ans qu'on travaille avec une société israélienne qui est peu connue du grand public, mais qui fournit la majorité des processeurs qui pilotent donc de façon autonome les véhicules. Et ST participe à cette aventure.
Alors vous participez aussi à l'aventure de la téléphonie. On parle beaucoup de 5G, hein, ce qui va nous permettre de télécharger plus vite des vidéos, de mieux téléphoner, puis de mieux utiliser toute cette technologie de demain, dont les voitures par exemple autonomes. Vous travaillez beaucoup avec le chinois Huawei, qui est beaucoup critiqué, notamment par les Américains. Semble-t-il, ils nous écoutent. Vous avez peur de travailler avec?
Alors écoutez, non, on ne va pas commenter qui sont les gentils, qui sont les méchants. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'économie est en train de changer. On était dans une économie globale, ouverte, gentille. Mmh. On est en train de passer dans une économie silotée avec des volontés de souveraineté. Et donc, ça va contraindre l'économie. Bon, ce qui est important pour nous, c'est d'offrir une indépendance stratégique. C'est-à-dire que nous, tout en respectant toutes les règles, comme on développe nous-mêmes nos technologies et nos bribes de propriété intellectuelle et nos produits, on peut commercer avec tout le monde.
Et
tout
Huawei fait partie des gens avec qui on peut très bien
exactement
travailler.
Exactement, et donc on travaille très bien avec Huawei.
Tous les industriels disent, et je crois que vous êtes le premier à le dire, ils ont 18 mois d'avance en moyenne sur tous les autres concurrents. 18 mois d'avance dans la technologie, ça veut dire des millénaires d'avance. Est-ce qu'il faut ou non leur fermer la porte de l'Europe?
Je pense qu'on pourrait contrôler ce qui fait peur, je dirais, aux autres industriels ou aux politiques. Bon, maintenant, encore une fois, c'est une affaire de souveraineté. On était dans un monde global où tout le monde pouvait travailler avec tout le monde et chacun des pays avec des politiques. Donc l'Europe, par exemple, c'était le spatial, le médical. Mmh. Et puis, ne se souciait plus trop de l'électronique et des télécommunications. Bon, maintenant, ça change. Bon, il faut faire les efforts nécessaires et suffisants pour pouvoir rattraper ce retard. Mais il y a 2 ans, on ne parlait pas de la 5G.
Bien sûr.
Bon, maintenant, oui, on en parle. Mmh. Bah, il faut s'activer pour rattraper le retard.
ST Microelectronics, je disais, c'est peut-être l'un des tout derniers groupes d'électronique en France, en tout cas d'une taille mondiale, qui réussit à conquérir des marchés. Comment vous expliquez que vous ne soyez pas mort, contrairement à Alcatel ou tous les grands noms de la technologie en France ?
Il n'y a pas de recette, précise. Je pense que la société, d'abord, elle est née d'une compagnie française, une compagnie italienne. À ses débuts, elle a eu d'énormes difficultés. Les deux États ont été engagés dans le support de cette compagnie. Donc, ils ont créé les conditions pour que la compagnie puisse se développer. Ensuite, il y a des gens qui sont passionnés dans cette compagnie et qui ont fait en sorte de la développer tout au fil des années.
Mais ça ne suffit pas. Quand on voit qu'on vend Alcatel à Nokia, Bull ne ressemble plus à rien aujourd'hui, a aussi été racheté alors ça, par un groupe français. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ST Microelectronics pourrait être encore là dans les 20 prochaines années?
C'est dans notre capacité de nous réinventer. Je veux dire, on a failli passer à la trappe, hein, comme ces grands groupes, à notre naissance. Et puis après, il y a quelques années, quand l'un de nos clients majeurs, Nokia notamment, a complètement disparu. Hein. C'était pour nous 2,5 milliards de chiffre d'affaires qui ont deux ans totalement disparu. Il y a peu de compagnies qui auraient résisté à ça. Mais on a su le faire, on a su se réinventer et on a su se positionner et anticiper les marchés de croissance.
Tout en continuant à produire en partie en France. 10 000 collaborateurs en France, 3 usines encore aujourd'hui en France.
Et ben là, je dois quand même souligner qu'on a continué à faire de la recherche et développement intensive sur la technologie. Bon, bah oui, c'est la clairvoyance des équipes, du management, du PDG, comme vous voulez.
Eh bien, rendez-vous dans 20 ans. Un grand merci, Jean-Marc Chéry, président du directoire de ST Microelectronics, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous, Emmanuel Duteil. On vous dit effectivement à demain. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Emmanuel Macron qui regarde Édouard Philippe avec une petite moue. Ces deux-là sont à la une de Libération qui titre « Réforme des retraites, comment ils en sont arrivés là ?» Un système juste et universel, la promesse recueillait en janvier 2019 l'approbation des deux tiers des Français. Un an plus tard, à l'heure où le texte arrive en Conseil des ministres, l'exécutif fait face à une opinion hostile et à une grève historique. Réforme des retraites, la dernière ligne droite, à la une des Échos, l'exécutif défend l'effet redistributif de la réforme, chiffre à l'appui. Les opposants, eux, espèrent un sursaut de mobilisation. Retraite, comment Matignon a tenu le choc, titre le journal L'Opinion, avec à la une caricature de Philippe Martinez qui porte une casquette « Make France Grève Again » et qui pointe le doigt en disant « C'est pas fini ». Le projet de loi sera présenté demain, vous le savez, en Conseil des ministres. Le journal La Croix propose lui un entretien justement avec Édouard Philippe, alors que cette réforme donc sera présentée en Conseil. Le Premier ministre se dit confiant dans l'aboutissement malgré une grève historique et la persistance des tensions sociales. Il défend un système équilibré, juste et plus redistributif. Le pays ne s'apaisera jamais par l'immobilisme, dit le chef du gouvernement qui fait donc la une demain du journal La Croix. Retraite, la réforme est lancée, les questions demeurent, titre pour sa part Le Figaro. Son coût et son financement restent encore très flous. Le mouvement social s'essouffle-t-il ou tente-t-il de reprendre son souffle dans l'espoir d'allumer enfin cette étincelle à même de produire l'embrasement escompté, s'interroge Florence Chédotal dans le journal La Montagne. Le tout laissera des traces, quel que soit le sort réservé à cette réforme, qui n'est plus qu'un prétexte, écrit la journaliste. Au fond, il n'y a dans cette histoire que deux choses qui comptent pour beaucoup de Français. Quand vais-je pouvoir prendre ma retraite et combien vais-je toucher? Le reste, écrit Florence Chédotal, n'est que bavardage. Et puis 20 millions de Chinois placés en quarantaine, titre pour sa part Ouest France, la Chine qui s'organise pour faire face à la propagation du coronavirus qui a contaminé plus de 600 personnes et en a tué 18. Pour l'OMS, en tout cas, il est trop tôt pour déclarer l'alerte mondiale. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Il est 22h30 tout pile. Merci d'écouter Europe 1. C'est l'heure de retrouver bien sûr Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très belle soirée à vous.
Et à tout à l'heure.